Alors, quand on lit ça comme ça, à ce niveau-là, de qui on se moque? Ou alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez qu'on ne comprend pas. Allez, faut avouer, humblement, on ne comprend pas. Et on apprend. Doucement, doucement. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé comme malheur dans le monde depuis le début de l'histoire du premier homme? On n'a aucune idée. Parce que tout ce qu'on peut lire, savoir, expérimenter, multiplier ça par des milliards d'indices multipliés. Quand on se demande si ce monde, ce n'est pas un enfer. Ce n'est pas un ban des univers où le bon Dieu envoie les bagnards des univers. Et peut-être c'est un peu ça aussi, d'ailleurs. Et alors, il ne vaut même pas y réfléchir parce qu'on serait dans l'angoisse. Il n'y a qu'à lire les journaux, tout ce qui se passe dans le pays. Et vous avez des gens intelligents qui vous disent c'est normal. Quand vous rencontrez un arabe et vous avez peur qu'il soit assassin, alors on vous dit c'est normal, c'est un arabe. Il n'y a pas pire racisme que ça. C'est normal qu'un arabe soit assassin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on est arrivé. Hein. Bon, alors je reviens au. Et alors, comme c'est normal, on va leur donner une police avec des armes juives. Je ne sais pas si vous voyez dans quel monde on vit. Bon, c'est ça le monde. Et alors, tous ces malheurs-là, ça vient de quoi? De ce que notre ancêtre, qui a eu le courage d'être homme, il fallait le faire, Adam Arichon, a mangé une pomme. De quoi on parle? De quoi on parle? D'abord, il n'y a pas écrit c'était une pomme. On va faire bifurquer l'angoisse. Alors, c'était quoi? Et le mirage nous dit un autre fruit. Bon, ça changerait au problème. Et puis, l'humour juif, à Rosh Hashanah, qui commémore l'événement, qu'est-ce qu'on prend une pomme avec du miel? Vous n'avez jamais remarqué ça? Pour faire le tikkun du chet d'Adam Arishon. Et vous savez qu'à Rosh Hashanah, on a tout un seder, on prend des fruits, des légumes. Chaque fois, il y a un yeratzon qui utilise le nom du fruit. Par exemple, quand on prend la pomme, on demande à Dieu que nos ennemis soient paumés. Vous voyez comment ça marche? Et en plus, on rajoute du miel pour qu'ils soient emmielés. Bon, alors voilà. Et il faut que vous découvriez que tout ça, il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne va pas de soi. Pourquoi les rabbins ont décidé qu'à Rosh Hashanah, on prendrait une pomme dans le miel? Et pendant ce temps, à côté, on nous enseigne tous les malheurs du monde, ça vient du fait qu'Adam Arichon a mangé une pomme. Quel rapport? De quoi il s'agit? Alors tout ça, je pourrais multiplier ça jusqu'à la fin des temps pour vous dire que ne faites pas semblant de croire que vous comprenez ce qu'il y a écrit dans ce livre. Il faut étudier, il faut apprendre. Ça y est, c'est clair. Hein? Bon. Et alors voilà, donc nous avons un récit qui nous raconte que le monde apparu du néant était à l'état de chaos et Dieu a agencé ce chaos en 6 jours et on arrive au 7e jour. Vous voyez, vous y êtes dans le... Alors, on est arrivé sur le point que nous étions en train de lire la structure, le plan de ce récit de la Torah sur l'œuvre de chaque jour. Et je vous avais pris comme exemple l'œuvre du premier jour qui est la lumière. Alors, vous prenez le texte dans le livre de Bréchit, au verset 3 du premier chapitre, et on reprend ce plan. Verset 3, hein, Aleph Gimel, chapitre 1, verset 3. N'ayez pas de livre, prenez chacun un livre. Suivez sur un livre. Prenez pas de livre. Hein? Non, vous n'avez pas le verset 3 ici. Mais je vous ai demandé qu'on vous distribue un livre de Bréchit et un livre de Shmuel. Hein? Un livre de Bréchit et un livre de Shmuel. Bon, attendez, une. Le livre de Shmuel, vous en aurez besoin pour le deuxième cours. Mais un livre de Bréchit à tout le monde. Donne des livres. Prends des livres de la route. Ben voilà, vous avez des livres. Parce que dans cette page-là, oui, mais vous n'avez que le début du verset 4 et j'ai besoin de plusieurs vers. Regarde, tu veux me demander un verre de thé peut-être? Allez, pressez-vous. Voilà, alors vous prenez le verset 3. Et on va faire le plan. Donc, le plan du récit de ce qui arrive au premier jour. Dans le récit, vous le prenez. Mais regarde. Là-haut, il y a des livres de récit. Là-haut. Voilà, allez, allez, perds pas de temps, perds pas de temps. Alors, suivez avec moi chaque expression du verset. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, et Dieu dit. Alors, tout à l'heure, on se demandera qu'est-ce que ça veut dire, et Dieu dit. Ça y est? Écoutez, je vais vous demander autre chose d'ailleurs. À partir de la prochaine fois, bon, mardi prochain, c'est la semaine de Hanouka, il n'y a pas cours. À partir de la prochaine fois, venez chacun avec son livre. Hein? On a besoin de. D'ailleurs, nous avons une règle dans l'étude, c'est qu'on étudie toujours avec le même livre. Tu n'as pas de livre en hébreu, toi? Et alors, tu vas apprendre. À force de lire, tu sauras. Tu sais, moi aussi, avant de savoir, je ne savais pas. Il faut commencer. Donne-lui un livre. Tu verras, à force de t'habituer, tu sauras. Ça y est ? Alors, Vayomer Elohim, et Dieu dit, Yehi Or, qu'il y ait lumière. Alors, je vous rappelle, dans vos traductions, il y a que la lumière soit. C'est pas une traduction exacte. Et ça implique un faux problème. Si je traduis que la lumière soit, et d'ailleurs, les différents auteurs qui citent cette traduction, le citent en latin, Fiat Lux, ça impliquerait un décret du Créateur. Que le Créateur décrète ce qu'il veut voir exister. Mais nous verrons que, à part l'œuvre du premier jour, où c'est ce que Dieu a demandé qu'il y ait eu, Yehior, Vayehior, qu'il y ait lumière et du lumière, par la suite, le texte ne s'exprime pas comme ça. Alors vous allez retenir le fait que Vayomer Elohim, c'est un souhait d'un projet. Et ça ne veut pas dire forcément que la créature réponde exactement à ce que Dieu a demandé. Ce que vous découvrez ici, mais suivez bien. Je voudrais bien que tout le monde suive. Et vous savez, je sais lire sur les visages et je vois qu'il y a des gens qui pensent à autre chose. Si vous voulez que je vous raconte vos rêves de la nuit dernière, je pourrais le faire. Vous rigolez? Méfiez-vous, ça se voit sur la figure. Alors, je reviens au sujet. Mais regardez le texte. Ça impliquerait qu'il y ait un décret du Créateur. Et alors, ça pose un problème très difficile. Comment se fait-il que dans l'expérience, en fait, on voit que ce n'est pas forcément ce que Dieu demande que la créature réalise. Il y a ici la marge de la liberté de la créature qui va se dévoiler chez l'homme. Dieu propose une Torah et voilà que sa créature ne l'accomplit pas forcément. C'est donc qu'il y a une marge de liberté de la créature. Nous allons voir que quel que soit le paradoxe apparent, ça commence dès la création, avant même que l'homme n'existe. Il y a Dieu et son monde. Son monde qui est à l'état de chaos, et Dieu qui formule un projet. Et qu'est-ce qui sort du projet? C'est ça qu'on est en train d'étudier. Hein? Alors, faites bien attention, il y a un cas particulier le premier jour. C'est dit en hébreu clair. Yehi or, qu'il y ait lumière. Vayehi or, et il y eut lumière. La raison pour laquelle le texte ne dit pas la lumière, haor, on ne va pas étudier maintenant. Seulement, je mets en évidence qu'il ne faut pas lire un texte faux. Il n'y a pas écrit Yehi haor. Que la lumière soit. La lumière dans l'absolu, c'est une lumière qui dépasse infiniment cette lumière dont nous avons expérience. Et ça, nous avons des textes dans le Midrash, dans le Talmud, qui dit que la lumière des premiers jours, Dieu l'a cachée pour le monde à venir, pour les tzadikim qui la mériteront. Alors, il faut prendre le Midrash au sérieux. Et ça s'accroche là. Yehi or, il n'y a pas Yehi aor, avec He. C'est clair tout le monde? Donc, alors retenez déjà ce sens que je vous donne en traduisant l'hébreu de la Torah, c'est le projet. Dieu a un désir, il veut voir quelque chose se réaliser. Et il attend, et il va juger, si c'est ce qu'il a demandé qu'il se réalise. Il attend que la créature réponde à ce projet. Plus tard, quand l'homme apparaîtra, la question est évidente. L'homme étant une créature libre, alors il faut s'attendre à ce que, ou bien il répond, ou bien il ne répond pas. Il est libre. Est-ce que c'est clair? Mais déjà, il faut familiariser à l'idée qu'il n'y a pas là le récit d'un diktat fiat lux, comme on dit, que la lumière soit, alors pourquoi il n'y est pas? Et quand dit que Dieu dit que la lumière soit, pourquoi il reste la moitié du jour qu'il y a la nuit? Vous voyez tous ces faux problèmes à cause de fausses traductions. L'état du monde à l'origine, vous l'avez dans le verset 2, c'est chaos et obscurité. Et Dieu dit qu'il y ait lumière. La lumière va apparaître, mais l'obscurité va rester. Alors il y aura le jour et la nuit. Tout ça, il faut comprendre. Pourquoi la Torah nous raconte ça comme ça? Alors, la première idée, c'est qu'il y a un projet de ce que Dieu veut voir réussir d'étape en étape jusqu'à la fin des temps de l'histoire de ce monde-ci où son projet sera en fin de compte complètement réalisé et on entre dans le monde de vérité qui s'appelle Olam Haba. Pour le moment, c'est le début de l'histoire de Olam Hazeh où il y a un projet en cours de réalisation. Alors là, on est tout au début, les six jours du commencement, avant que l'homme n'apparaisse, et on est au premier jour. J'utilise ce texte pour qu'on apprenne, s'en dégage, la structure de tous les récits historiques de la Bible. Vous allez voir que c'est en cinq points, toujours, même si parfois un des points est caché. Premièrement, le projet. C'est clair jusque-là? Bon. Alors, on a modifié la traduction et Dieu dit. C'est pas un diktat. Vous comprenez ce que ça veut dire ce mot en français, Ken? Cette idée d'un Dieu dictateur. On voit que le maître du monde, c'est comme un père qui a des projets pour ses enfants. C'est comme un père qui a des projets pour sa créature. Bien sûr qu'il pourrait faire que le monde soit comme il veut d'un coup. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Et pourquoi le monde n'est pas parfait d'un coup? Est-ce qu'il n'est pas capable, le créateur? Pourquoi faut-il qu'il y ait un monde en cours d'histoire, de projet en projet, d'étape en étape? Et il y a des progrès, mais il y a des regrets, comme on dit, des régressions, okay? Pourquoi c'est comme ça ce monde-ci? Alors qu'on parle de Dieu, qui est l'absolu, il peut, absolu, le tout-puissant, Koliachol, il peut décréter, je veux un monde parfait, d'un coup. Pourquoi il faut passer par là? Qui pourrait... D'abord, vous découvrez la question. Hein? Je suis persuadé qu'un jour, vous avez dû avoir furtivement cette question en tête, et puis vous l'avez repoussée, blasphème, on ne se demande pas pourquoi Dieu a fait le monde comme il a fait. Nahon, okay? Mais c'est la Torah qui va nous obliger à percevoir le contraste entre le projet du Créateur qui est un monde parfait et l'état du monde qui est un monde plein de chaos, où le chaos n'est pas encore évacué. C'est le meilleur des mondes, mais il s'embête détraqué. En réalité, il n'est pas détraqué, il est encore en chaos. Il y a un achèvement du chaos qu'il faut arriver à réussir. Alors je reprends la question au début. Vous découvrez le problème, okay? Pourquoi ce n'est pas le monde à venir que Dieu a créé? Pourquoi il faut passer par ce monde-ci avant d'arriver à Olam Haba, comme on dit en hébreu, le Olam Haba? Vous avez entendu parler, okay? Qui peut répondre? La réponse juive devrait vous être naturelle. Tu es un ancien ou un nouveau, toi? D'accord, je t'écoute.
C'est une idée, pour avoir un monde parfait, mais les créatures qui ont plus parfait, ce sont mérites.
Très bien, ben, c'est la réponse. Voilà. Vous voyez, la réponse juive naturelle. Tu es un grand-père talmudiste? Pas encore. Alors prends-lui le Talmud. Bon, il y a une hérédité juive qui doit répondre comme ça. Nous sommes habitués, par notre mentalité d'éducation juive, à savoir cela. Ce que Dieu donne, il faut le mériter. Et c'est à travers l'effort de parachèvement de l'histoire du monde que l'homme va mériter d'avoir été créé en vue d'un monde parfait. Est-ce que c'est clair l'idée? Comment on dit la notion de mérite en hébreu? Kira? Zechut. Zayin, Kaf, Vav, Tav. Zechut. Quelle est l'étymologie de Zechut? Un seul est plus fort. Vous savez, j'entends mal. Vous savez, l'âge, ça existe. Alors, parlez plus fort. Que signifie la racine d'où vient le mot Zechut? Mériter, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, très bien, c'est une autre racine à côté. Non, non, attends, attends, pas tout le monde à la fois. On va s'occuper de ça. Comment on dit pur avec cette racine? Zah. Zah. Très bien. Vous voyez, la racine qui signifie mériter se rattache à une racine qui signifie être épuré. Je vais vous dire quelle est la Mishnah qui enseigne ça. Ratsa, Akadosh Baruch Hu, continuez, les Akot et d'Israël. Dieu a voulu faire mériter Israël, les Akot, les Fichar, Irbalaen, Torah ou Mitzvot. Et c'est pourquoi il a multiplié pour eux la Torah et les Mitzvot. On étudiera une fois pourquoi cette expression est comme ça, Torah et Mitzvot. Est-ce que ce n'est pas la même chose? On verra en quoi c'est différent, Torah et Mitzvot. Mais, et vous voyez, je reprends la formule de la Mishnah, Ratsa Akadosh Baruch Hu, Dieu a voulu, vous voyez, un projet, les Akotes d'Israël, de faire mériter Israël, c'est la première traduction, les Fichar Irbalaen Torah Mitzvot. Objection. Si je multiplie les Mitzvot, je multiplie les causes d'échec. Alors, pour m'aider, on m'a donné beaucoup de Mitzvot, mais en même temps, ça me rend la tâche plus difficile. Regardez, les Goïms, ils ont 7 Mitzvot. Les sept lois des Bnei Noir. Ça vous apprendrez d'autre part, vous demanderez un autre cours d'étudier ça. Un goy, s'il observe les sept mitzvot de Noir, peut avoir Olam Haba. On n'a pas dit que c'est le même, mais enfin, un Olam Haba. Chélek. Chacun a sa part. Ce n'est pas forcément la même part, même pour Israël. Chacun a son niveau. C'est un problème qu'on étudiera un autre jour. Mais il leur suffit de 7 mitzvot pour arriver à réussir le projet du Créateur pour eux. Et nous, non, il faut 613. Bien sûr, il s'agit du clan Israël, d'Israël dans son ensemble pour les 613 mitzvot. Il faut se mettre à tout Israël pour réaliser les 613 mitzvot. Malgré tout, pour un juif, il y a beaucoup plus de mitzvot que pour un goy pour avoir la main bas. Et tu me dis que c'est pour m'aider. Ça me complique la tâche. Est-ce que c'est clair? Vous voyez cette... comment dire, ce courage d'Israël au Sinaï qui, à l'avance, accepte la Torah. Il y a un très joli midrash qui dit que au moment de la révélation du Sinaï, le monde entier a été ébranlé. Alors les goïms avaient peur qu'il se produise une catastrophe comme au temps du déluge. Ils sont allés voir leur prophète, Bilam, demandent qu'est-ce qui se passe. Bilam a répondu, c'est Dieu qui donne la Torah à Israël. Alors les goïms ont dit que Dieu les bénisse. Okay. Parce qu'ils ont l'imprudence d'accepter la Torah, ils ne se rendent pas compte que... Quand Israël est arrivé au pied du Sinaï, et que Moïse leur a dit, j'ai une loi à vous donner. Alors ils ont dit, mettez deux tables, une ça ne suffit pas. Alors je mets en évidence la difficulté de cette Mishnah. Ratsa, Akadosh, Baruch Hu, les Akotes d'Israël, les Firar et Balaim Toromidio. Vous voyez la difficulté? Au contraire, si je veux favoriser quelqu'un, je lui donne une tâche moins difficile à réaliser. En réalité, il a favorisé le goy. Vous voyez, c'est clair? Parce que ne croyez pas qu'un goy n'a pas Olam Haba. S'il est pratiquant des sept mitzvot des Bnei Noir, il a droit à son Olam Haba. Chassidé, umota, olam, yesh laem, chelech, la Olam Haba. Alors eux, c'est avec sept mitzvot, et nous, il nous en faut 613. Vous voyez la difficulté de la Mishnah? Ça y est, tout le monde est convaincu? Alors c'est pourquoi on cite le deuxième sens de l'exemple, épuré. Rendre pur. Vous voyez, on a donné dans le Midrash l'image de l'orfèvre. Il prend une pièce une barre de métal, il la martèle pour l'épurer, la passe par le feu pour l'épurer, les akotes, rendre pur, épurer, purifier. Voilà, c'est compris? Alors je reviens à cette notion qui est très importante, qui va traverser toutes vos études. Dieu donne, mais pour que ça soit à moi, il faut que je l'obtienne. Je le mérite, ça ne suffit pas de rester au premier stade, recevoir par grâce. On verra d'ailleurs, c'est tout le conflit qu'on a avec le christianisme. Il y a d'abord cette première expérience de la foi, c'est Dieu qui donne. Et il donne a priori de tout mérite. J'existe avant l'histoire de ma vie, au commencement de l'histoire de ma vie, je n'ai rien mérité. Dieu me fait cadeau à moi-même, avant de l'avoir mérité, toute ma vie. A posteriori, je passe mon temps à mériter le cadeau que j'ai eu à ma naissance, moi-même. Vous avez compris ça? Donc, il y a un premier stade. Il y a la grâce de Dieu qui m'a créé. Chesed. C'est un cadeau. Il n'y a aucun mérite. A priori, il n'y a aucun mérite. Bon, finalement, il y a une préhistoire de la naissance. Ça nous dépasse. On ne se rappelle pas ce qu'il y a eu avant. Ce n'est pas n'importe qui est n'importe qui. Et donc, ça, c'est un autre problème. Pourquoi chacun est ce qu'il est, pas autre chose, okay? Ça s'explique. Oui, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, quand je nais, j'ai reçu ma vie en cadeau. C'est clair? Ça, c'est la première. La première mida en hébreu, c'est la première attitude de foi, savoir que Dieu me gratifie de mon être. C'est Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, c'est Chesed, celui qui donne. Abraham ne voit que ça dans la relation entre Dieu et le monde. Dieu, c'est celui qui donne l'être à la créature. Ça s'appelle en hébreu Mashpia. Ça se traduit pas, ce mot n'existe pas en français. Mashpia, il fait venir la bénédiction sur celui qui la reçoit. Et puis arrive le deuxième stade. Et ce que j'ai reçu en cadeau, il faut le mériter. Ça, c'est le Dieu d'Isaac qui me réclame le prix du cadeau donné à Abraham. J'étudierai ça avec moi, je pense aussi, quand j'étudiera le chapitre que le Goïm appelle le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice n'a pas eu lieu et l'épreuve était pour Abraham. Mais dans ce récit, on voit que dès qu'Isaac est prêt à payer le prix de ce don de l'être, il n'y a pas d'autre prix que de rendre l'être que j'ai reçu. Avec quoi je vais payer le prix de mon être? Aucune monnaie ne peut monnayer mon être. Aucune vertu ne peut me faire être. Ça peut améliorer mon être. Mais mon être lui-même, le seul prix, c'est lui-même. Dès qu'Isaac est prêt à payer son être, il l'acquiert. Dès qu'Isaac est prêt, Dieu dit à Abraham, ne le touche pas. L'épreuve a réussi. Vous apprendrez ça dans la vie. On n'a jamais obtenu que ce à quoi on est prêt à renoncer. Si on n'est pas vraiment prêt à renoncer à quelque chose, on ne le possède pas. Parce qu'on ne peut vraiment renoncer qu'à ce qu'on possède vraiment. Oui. Bon, vous verrez par votre expérience de la vie, d'abord, le monde est un cadeau du Créateur. Deuxièmement, ce cadeau, il faut le mériter. Et ça, vous avez la tradition juive essentielle. Je vais vous citer un verset d'ailleurs qui explique cela. Tzadik sonne matanot. Apprenez bien ce verset. Le tzadik haït les cadeaux. Il préfère être celui qui donne que celui qui reçoit. D'ailleurs, pourquoi le tzadik haït les cadeaux? Parce qu'il faut les rendre. Alors, vous n'avez jamais entendu parler de cette expression, rendre un service. Hein? Méfiez-vous quand on vous fait un service, il faut le rendre. Et j'ai fini. Mais ça veut dire que il y a dans l'identité juive cette attitude que pour avoir le droit de posséder ce que Dieu a donné, il faut le mériter en quoi que ce soit. C'est Dieu qui possède le critère du mérite. À quel moment j'ai déjà mérité ce qu'il m'a donné? Mais je passe toute ma vie à mériter le cadeau de l'être que Dieu m'a donné à la naissance. Voilà la notion de mérite. Pourquoi il faut passer par Olam Hazé pour arriver à Olam Haba? Et c'est vrai à l'échelle collective, c'est vrai à l'échelle individuelle, parce qu'on est situé dans un monde préalable, un monde, je dirais, presque préhistoire du vrai monde, où nous sommes en examen de passage, si j'ose dire. Est-ce que je mérite d'entrer dans mon monde? Alors pour ça, nous sommes dans un monde provisoire, que le Midrash appelle le vestibule du monde, qui est ce monde-ci, Prosdor, qui est ce monde-ci. Donc on a répondu à la question. Retenez en tout cas, ça, les détails de l'explication, vous pouvez l'oublier si vous avez compris. Retenez la notion de mérite qui est une notion clé. Mais ce n'est pas parce qu'il faut mériter qu'il faut oublier que c'est un cadeau. L'expression Dieu d'Abraham reste entière quand on arrive à Dieu d'Isaac, pour arriver à Dieu de Jacob. Tout ça, on a le temps d'étudier pas à pas. Okay? Il y a deux vertus fondamentales. D'abord, Abraham et Isaac. Chesed et Din. Dieu m'a donné mon être en Chesed, mais il faut que je le mérite par le Din. Et comment je mérite cet être qui m'a été donné? Par les vertus. Et la Torah, c'est la règle de ces vertus. Comment il faut se conduire de telle sorte de mériter le don de l'être qu'on a reçu à la naissance? Vous savez, c'est clair? Bon, qu'est-ce que tu veux demander, toi? Allez. Hein? Voilà, tu vois qu'il faut être patient, hein? Donc, très bien. Alors, je reviens donc au problème. Yehi Or, c'est un projet. Alors j'espère que maintenant c'est un peu plus clair que il y a une marge de liberté de la créature pour pouvoir fonder la notion de mérite. Est-ce que c'est clair? Parce que la notion de mérite n'aurait pas de base s'il n'y avait pas la liberté qui mène à la responsabilité. Alors, ce qu'on découvre ici, on va le découvrir avec un rachis, je ne sais pas si on va y arriver déjà aujourd'hui, qui est que même avant que l'homme n'apparaisse dans le récit, il y a une liberté diffuse dans la création, et cette part de liberté qui était diffuse dans la création va se réfugier dans l'homme et se figer partout ailleurs. Partout ailleurs, ça devient le fonctionnement de la nature. Le monde se fige dans l'état où il est quand l'homme entre dans le monde. Je parle de la cohérence du récit. Et c'est l'homme qui devient la liberté du monde. Et donc le monde entier est jugé dans l'homme. Est-ce que c'est clair? Ne me dites pas tout de suite que c'est clair, parce que moi j'ai mis 40 ans pour comprendre ça. Mais commence à réfléchir. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'étonner que la Torah parle d'un monde qui serait libre. Avant même que l'homme n'existe, eh bien, cette liberté était diffuse dans le monde. Je vous donne un exemple. Et quand, dès que l'homme apparaît, elle se fige partout ailleurs. C'est les lois de la nature. Il n'y a que l'homme qui est aussi libre et pas seulement conditionné par les lois biologiques de ce qui le relie à la nature du monde. Et tout simplement, vous verrez que la Torah nous raconte que lorsque l'homme a été puni par sa faute, la terre a été aussi punie. Oui. Alors je vais vous dire, on ne va pas avoir le texte maintenant, mais je vais vous donner la référence, vous l'étudierez vous-même. Et le projet, au moment de la création des arbres, le projet de Dieu, vous verrez dans le texte, je vous donnerai le verset, c'est que la terre produise des arbres fruits. Et voilà qu'elle n'a produit que des arbres porteurs de fruits. On peut se demander, mais pourquoi elle n'a pas fait ce que Dieu a demandé? Elle était libre. C'est une idée impensable pour les modernes. Que ça veut dire que la nature est libre. Vous voyez, c'est cet exemple. Et Rashi explique que lorsque l'homme a fauté avec le fruit, alors la terre a été maudite de sa faute d'avoir fait des arbres porteurs de fruits et pas des arbres fruits. Vous voyez qu'on n'y comprend rien. Mais au moins la cohérence du récit est claire. Ça veut dire Rashi fait allusion à une part de liberté, donc de responsabilité de l'univers tout entier, qui devient la liberté de l'homme. Et tout se passe comme si, retenez cette formule, elle nous est transmise par nos maîtres de la Kabbalah, le monde entier est le corps de chacun. Nous sommes enracinés dans l'univers par la nourriture. On ne s'en rend pas compte parce que l'arbre qui prend sa nourriture du monde, à travers la terre, est enraciné dans la terre. Nous sommes enracinés par les dents, mais on ne s'en rend pas compte. Et nous sommes, je le dis très très pshat, comme le dit le Midrash, nous sommes enracinés dans le monde par les dents. C'est pour ça qu'on parle des racines des dents. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, c'est une coïncidence. Vous parlez d'une coïncidence. Vous savez que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Ce n'est pas ça. C'est comme on mange qu'on vit. D'où, on apprendra ça plus tard, l'importance de la cacheroute. On ne mange pas n'importe comment. Parce qu'on devient ce qu'on mange. Vous savez l'importance des dentistes dans la médecine. Il n'y a pas des dentistes parmi vous. Bon, si vous connaissez des dentistes, oubliez ce que je vais vous dire. C'est des gens extrêmement dangereux. Ils mangent avec les dents des autres. Bon. Comment? Oui, mais vous savez qu'est-ce que c'est? Un docteur escroc. C'est un dentiste. Bon, je reviens au sujet. Effectivement, toute la liberté, encore une fois, je me retiendrai à cette formule, la liberté diffuse dans le monde tout entier va devenir l'homme. Et donc le monde est jugé à travers l'homme. C'est très important pour comprendre ce que les modernes appellent l'écologie. C'est dans la manière dont l'homme se conduit que le monde se salit ou est propre. Vous voyez, le sort du monde dépend de la manière dont l'homme vit. Vous voyez le lien? Et effectivement, nous sommes en train de démolir la planète. L'humanité civilisée est en train de démolir la planète. Vous êtes au courant de tout ça? On va avoir trop de cauchemars, mais on a un problème insoluble. Il faudrait arrêter la civilisation pour arrêter le zihum, comme on dit. La pollution, oui. Et alors que les civilisations traditionnelles n'avaient jamais pollué le monde. Mais la civilisation moderne a pollué le monde. Bon, la nature se venge de la conduite de l'homme. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a là, c'est que le monde entier, c'est notre corps. On va prendre une petite afsaka, mais je voudrais quand même terminer ce matin ce plan, on est juste au début. Mais vous avez remarqué, réfléchissez à cette question. Où est la limite du moi par rapport au non-moi? C'est-à-dire où mon moi s'arrête et commence le monde extérieur. Alors on a l'illusion de croire que c'est la limite, c'est la peau. Que mon moi s'arrête à ma peau et qu'au-delà, c'est le monde extérieur. Mais j'ai une relation au monde extérieur par tous les organes des sens. Il y a des fenêtres dans cette peau. Il y a une circulation d'identité entre le monde et moi. Par exemple, est-ce que mon paysage m'appartient ou est-ce que c'est neutre par rapport à moi? Si on me coupe de mon paysage, est-ce qu'on m'a atteint ou pas? Et puis surtout, la relation au monde extérieur avec la nourriture. À travers la nourriture, je suis relié à tout le paysage terrestre. Surtout avec la situation moderne où je mange le monde entier en conserve. Je peux venir des corps de palmiers des Caraïbes, et puis je peux faire venir des dattes de Biskra. Okay? Est-ce que je suis de Biskra? Est-ce que je suis des Caraïbes? Et pourtant, j'ai un lien avec mon corps extérieur qui est l'univers entier. C'était pas visible, ça devient visible dès que je me rends compte. Vous avez compris le problème. Okay? Alors, ça nous implique à une grande modestie. Parce qu'on ne peut pas se refermer dans son moi égoïste, limité par la peau. Okay? Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? C'est l'ensemble des points de l'espace qui se déplacent avec moi. Mais quand je me déplace,